Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Léa Sabourin, Marguerite Caton, Corentin Monsois, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. Toute cette semaine, donc, nous allons nous intéresser à la République islamique d'Iran qui fête ses 40 ans, 1er février 79. Khomeini rentrait de son exil français à Téhéran. Où en est aujourd'hui l'Iran? C'est ce qu'on va essayer de comprendre cette semaine. On parlera de l'économie iranienne, de politique étrangère, mais aussi de la société elle-même, bien sûr. Mais pour commencer, nous allons nous interroger sur les forces et les faiblesses du régime. Une théocratie qui plie, mais ne rompt pas. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Nous avons besoin d'examiner pourquoi notre nation a connu de tels malheurs. Qu'a dit le peuple? Pourquoi a-t-il subi de telles effusions de sang, de tels pillages et cette oppression alors même qu'il faisait entendre sa voix? Je vais nommer une nouvelle administration et je vais renverser ce gouvernement. Je vais désigner le gouvernement avec l'aide et le soutien de la nation depuis que le peuple m'a reconnu.
Extrait du discours de l'ayatollah Khomeini il y a donc 40 ans, le 1er février 1979, 40 ans après la chute du Shah et l'avènement de la République islamique d'Iran. Où en est l'Iran? Le retour de l'ayatollah a-t-il permis de construire un État fort et pérenne ou souffre-t-il toujours d'une certaine instabilité structurelle? Avec les émeutes contre la vie chère entre décembre 2017 et janvier 2018, avec la petite musique du changement du régime interprétée par Washington et Israël, et alors qu'une nouvelle vague de protestations apparaît ces derniers mois, le régime a paraît plus fragile que jamais, mais que ce soit les manifestations populaires de 99, celles de 2009 suite à la réélection contestée d'Ahmadinejad ou encore le printemps perse avorté en 2011, l'Iran n'en est pas à sa première épreuve et à chaque épisode, la théocratie chancelle mais ne tombe pas. Alors comment comprendre la résilience de cet État qui soufflera ses 40 bougies le 11 février prochain? Comment expliquer la faculté d'adaptation du régime face à un environnement intérieur et extérieur extrêmement changeant? Et plus généralement, quelles sont les évolutions politiques particulièrement marquantes qui ont transformé le pays depuis donc l'avènement de cette République islamique? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité deux personnes. D'abord Bernard Ourcade, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur de très nombreux ouvrages, citons Géopolitique de l'Iran, mais aussi un article qui vient de paraître ce matin dans Orient 21. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Ahmad Salamatian, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Intellectuel, ancien parlementaire iranien, vous aussi auteur d'un ouvrage, notamment La Révolte Verte. Merci infiniment d'être là. On va commencer peut-être avec un état des lieux et se pencher en particulier sur l'année 2018 qui a été difficile pour l'Iran. Difficile d'abord sur le plan intérieur, avec une très forte augmentation des prix, l'effondrement de la monnaie, un taux de chômage qui a augmenté, des contestations sociales très importantes, je l'évoquais. Sur le plan extérieur aussi, une année extrêmement difficile. Là, ça a été l'année où Donald Trump s'est retiré de l'accord sur le nucléaire, avec à la clé le retour des sanctions. C'est un peu l'anus horribilis de l'histoire de la République islamique. Si on met de côté évidemment la décennie 80 avec la guerre Iran-Irak, est-ce que vous diriez que 2018, ça a été une année particulièrement compliquée pour l'Iran, Bernard Ourcade?
Particulièrement compliqué, mais comme vous le disiez, l'Iran est habitué aux crises. C'est pas la première fois qu'il y a des difficultés énormes. Le fait important, c'est la combinaison de problèmes extérieurs et intérieurs. D'un côté, Trump déchire l'accord sur le nucléaire qui a été négocié par toutes les grandes puissances du monde, qui est un consensus. Et cette politique américaine concerne autant l'Europe d'ailleurs que l'Iran. Les États-Unis veulent être grands et indépendants du reste du monde. Et deuxièmement, à l'intérieur du pays, les réformes qui devaient être faites pour que le pays soit vraiment un grand pays moderne du XXe siècle n'ont pas été faites. Donc, en particulier sur la transparence financière pour les banques. D'un côté, Trump ne veut pas qu'on envoie de l'argent en Iran. De l'autre côté, les banques iraniennes ont tout fait pour ne pas pouvoir recevoir d'argent de l'extérieur. Le système est bloqué des deux côtés. Et donc, on arrive aujourd'hui à un peu une date cruciale. Et 2018 montre qu'à la fois à l'intérieur, il faut des solutions et à l'extérieur, il en faut. Les Européens, on en reparlera je pense, viennent de mettre en place un système, l'INTEX, un nom impossible à prononcer, un système permettant de commercer avec l'Iran sans passer par le dollar, mais il faut en parallèle que les Iraniens aient pris les lois nécessaires pour que la transparence des banques soit claire. Et là, il y a un énorme débat en Iran. Des deux côtés, il y a une bagarre pour que l'Iran ne sorte pas vivant de cette crise.
Le fameux véhicule spécial européen, le dispositif qui permettra peut-être de contourner les sanctions. Mais on en parlera aussi beaucoup demain parce qu'on se penchera sur l'économie en particulier. Ahmad Salamatian, 2018, année particulièrement compliquée pour l'Iran. C'est vrai que quand on fait un peu un bilan du régime actuel, on voit que c'est l'un des régimes les plus répressifs au monde, avec une économie particulièrement affaiblie, avec des atteintes aux droits de l'homme récurrentes, avec une corruption généralisée, avec une population très appauvrie, et pourtant le régime tient. Comment l'expliquer ? Est-ce que c'est parce qu'en fait le bilan vu d'ici est assez incomplet et qu'il y a aussi des éléments positifs qui permettent à mettre au crédit donc à ce régime et qui lui permettent de se maintenir ? Ou est-ce que c'est parce qu'au fond le système politique mis en place est particulièrement solide, Ahmad Salamatian ?
La solidité d'un système vient aussi des éléments de cohésion interne qui peut fabriquer ce système. Et les éléments de cohésion interne, convergence interne pour le pouvoir, ne viennent pas nécessairement des éléments intérieurs du pays. La République islamique, dès le début, était un régime de défi. Contrairement au régime du Shah, qui était d'une certaine manière un régime répressif, dur, mais il ne prenait pas comme mode de vie essentiel de lancer le défi à son monde extérieur, même à la population, il essayait d'éviter. Mais de temps en temps, il faisait le régime, le Mollah et les Rouges, qu'il appelait l'alliance de Rouge et Noir, comme les défis, parce que le défi rouge faisait peur à ses protecteurs américains, et le défi noir, ça faisait peur à des nouvelles classes qui commençaient à évoluer en Iran. Mais le régime des Mollahs, dès le départ Khomeini, dès son arrivée à Téhéran, il a fait le défi. À Paris, il a fait le défi. Et le défi continue. Et il a après profité du défi qui était dû à l'affaire des otages. Et le défi, la guerre l'Iran-l'Irak. Et permettez-moi que l'année 2018-2019 était une année sur le plan des faillites économiques, financières du régime iranien très très flagrante. Mais il y avait une aubaine aussi. C'était le défi de l'administration Trump. Et ce défi, beaucoup plus qu'il fasse peur et ébranle jusqu'à maintenant le pouvoir iranien, est en train de se transformer en seul lien valable qui consolide d'une certaine manière la convergence intérieure. Alors, la société civile iranienne de plus en plus est exigeante, de plus en plus il y a des revendications, de plus en plus il y a des dénonciations. Avec les médias modernes, de plus en plus, on ne peut plus étouffer les voies de contestation, mais le dynamisme politique qui fait, en fin de compte, dans une dialectique entre le pouvoir et l'antipouvoir, permettez-moi de vous dire que le pouvoir iranien a passé une année difficile en 2018, en ce qui concerne les éléments économiques, contestation intérieure, mais en ce qui concerne les éléments qui poussent la société iranienne, qui est une société insulaire, d'une certaine manière. Elle se définit pour différentes raisons historiques par rapport aux autres. Il se sent menacé, et cette menace, le régime iranien en profite largement.
Bernard Ourcade, un contexte social particulièrement difficile en 2018. On se souvient que l'Iran avait débuté l'année avec plusieurs jours de manifestations, et d'ailleurs pas seulement à Téhéran, il y avait quasiment 80 villes dans le pays qui avaient été atteintes. C'était un moment très important où il y avait un vote du budget au Parlement. Il se trouve qu'à l'époque, le président Rouhani avait décidé de mettre en place des mesures d'austérité. Si on revient un peu aux racines de cette colère, est-ce qu'elle est seulement le fruit d'un rejet de cette austérité ? Est-ce qu'elle est seulement le fruit, effectivement, c'était pas encore le cas à l'époque, de ce retrait sur le nucléaire américain, ou est-ce que c'est autre chose de plus structurel, et qu'est-ce que ça a produit sur le régime lui-même ? Est-ce qu'on peut dire que ça a beaucoup affaibli le camp modéré ? Souvent, on fait un peu ce raccourci avec d'un côté le camp modéré, l'autre côté le camp, disons, plus radical. Est-ce que c'est le camp modéré, finalement, qui a politiquement payé cette contestation ?
Non, la contestation de l'hiver 2018 est une contestation populaire pour des questions économiques. Ce sont, je veux dire, les gilets jaunes iraniens, en quelque sorte, qui ont protesté contre un peu tout, qui a été assez peu exploité politiquement, bien qu'au départ, c'était peut-être manipulé, d'ailleurs, pour des raisons politiques. Donc,
par le camp conservateur, c'est ce qui a été beaucoup dit, c'est le cas.
Oui. Bon, c'est la bonne guerre. Mais ce qui est important, justement, de voir en Iran, c'est que, quand vous parlez de théocratie, de régime répressif, l'un des plus répressifs au monde, à corruption, oui, c'est, tout cela est vrai. Il ne s'agit pas de dire que l'Iran est une belle démocratie libérale et magnifique, etc.
Mais on oublie des choses dans le bilan.
Oui, c'est-à-dire, il faut voir qu'il y a en Iran une discussion. Il y a 40 ans, les Iraniens ont pris la rue. Ils ont occupé les rues. Ça ne se fait pas de marcher au milieu de la rue. Ils ont pris la parole. Et cette parole, ils l'ont gardée, tout le temps. Donc ce qui est important 40 ans après, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, malgré le régime politique qui peut être ce qu'il est, la corruption, tout ce que vous voudrez, les Iraniens ont gardé la parole. Alors certains disent en plaisantant, il y a liberté d'expression en Iran, il n'y a pas de liberté après l'expression. On est d'accord là-dessus. Mais les Iraniens, il y a des journalistes en prison en Iran, parce qu'il y a des journalistes qui crient, qui pleurent, qui écrivent, et qui sont en prison, qui sont libérés. Autrement dit, il y a un combat politique extrêmement fort à l'intérieur du système. Et je crois que, malgré tous les événements de 2009, où c'était les intellectuels de gauche, disons, qui étaient pour la liberté contre Ahmadinejad, qui avait truqué les élections, que ce soit émeute populaire en 2018, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut discuter et que les rapports de force, tout le gouvernement le prend en compte, le gouvernement en place de Rouhani, mais le guide de la République islamique le premier. Ce qui est important en Iran, c'est de voir la multiplicité des forces. Et quand on revient à la révolution de 79, on se rend compte qu'il y avait des communistes, des libéraux, des nationalistes, des islamiques, des Rouhaniens. Tout le monde était là pour faire tomber le Shah. Ces forces-là ont été éliminées physiquement pour certains, mais la racine de ces forces reste en Iran. Et donc, une des secrets de la longévité du régime, c'est justement d'avoir la capacité, et les mollahs sont excellents de ce point de vue-là, de comprendre ce qui se passe et être capable, par la répression, mais aussi par des compromis, c'est le chiisme par définition, de trouver des solutions, bancales certes, pour essayer de durer. Et donc, ce qui est important, je crois, c'est d'essayer de dépassionner le débat sur l'Iran et d'analyser les rapports de force. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que les rapports de force qu'on avait vus en 1978-79, on les a toujours aujourd'hui. Un petit détail, je viens de lire hier que M. Abtaï, qui était le chef de cabinet de Ratami, vient de dire à propos de Janati, qui est le président du Conseil constitutionnel iranien, la plus haute personnalité juridique de l'État, qui a fait une sortie absolument inadmissible et conservatrice. Monsieur Janati prendra sa retraite, c'est une très bonne chose pour lui, une très bonne chose pour la révolution, une très bonne chose pour l'Iran, une très bonne chose pour l'islam. Quelle parole d'amitié entre deux grands leaders de la République islamique. Et ça, c'est très important aussi.
Ahmad Salamatian, à l'époque des manifestations dont je parlais l'année dernière, elles avaient été réprimées, ces manifestations, non pas par les gardiens de la Révolution, qui est la principale force armée du pays, mais par le ministère de l'Intérieur. Comment le comprendre? Et est-ce qu'il faut le traduire comme étant le signe que peut-être les gardiens de la Révolution ont perdu de l'influence?
Non, non. Je crois que c'est une économie de la répression qui s'installe en Iran. Avec les expériences qu'ils ont eues depuis 40 ans, et l'expérience de la révolution iranienne aussi, on n'en voit pas dans la rue, en première ligne, le gros bataillon. Et on évite surtout que les agents de répression restent longtemps dans la rue. Pourquoi? Parce que l'expérience de la révolution iranienne a montré que quand l'armée, malgré son encadrement, malgré l'idéologie qu'on lui a inculquée, reste longtemps dans la rue, en prise avec la population, de même fait que socialement, au point de vue, ses revendications peuvent être de même essence, il va y avoir la fraternisation. Le régime islamique, depuis toujours, il a fait la même chose. Et permettez-moi de vous dire que ce soit gardien de la révolution, que ce soit les forces de sécurité du pays, encore il y a la même continuité de classe et de vision sociétale entre eux et une grande partie de la population. Et un des arts les plus importants des religieux de Khomeini et ses successeurs jusqu'à là, c'est justement si la durée vient par la capacité de faire des compromis, non pas avec son adversaire, mais avec son environnement, avec la société, et de trouver toujours des lignes qui peuvent rassembler le plus dans son propre camp. c'est pas seulement l'opposition iranienne qui était plurielle et qui restait plurielle. Le pouvoir des mollahs aussi, malgré l'apparence de turban de l'ayatollah Khomeini qui couvrait tout le monde, c'était pluriel. Mais permettez-moi de vous dire...
C'est une pluralité qu'on a du mal à voir ici. Pour nous, il y a effectivement l'ayatollah et aucune tête ne dépasse, si je puis dire. C'est pas le cas.
Mais je vais vous dire une chose.
Je vais vous donner
un exemple. Aujourd'hui, le nombre des religieux prisonniers dans les prisons de pouvoir islamique à cause de leur activité religieuse et politique dépasse plusieurs centaines. Et là, ça continue toujours. Ici, on regarde, on fait deux uniformes. Mollah, non mollah. Laïque,
quand modéré, quand radical.
Laïque et clérical. C'est pas véritablement la même en Iran. Et les mollahs, au sommet de pouvoir, jusqu'à là, ils ont été mis dans l'art de réussir à s'adapter avec les conditions quotidiennes de l'exercice de pouvoir.
Je suis tout à fait d'accord avec cela. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu une révolution. Une révolution, c'est pas un bonhomme qui est un offre le château, qui arrive dans un avion et qui dit « c'est moi le chef ». C'est qu'il y a eu avant tout un changement, tout un consensus qui s'est mis en place. Très divers, forcément. Une révolution, c'est la conjonction momentanée de forces contradictoires qui sont d'accord sur un tout petit point. Donc, diversité chez les religieux. Ne pas oublier en Iran que l'ayatollah Shahir al-Madari, qui était le grand leader des religieux de Qom, n'était pas du tout d'accord avec Khomeini. Que à Téhéran, le leader de la révolution sur place, un peu mollah de gauche, l'ayatollah Talleyrani, n'était pas d'accord non plus avec son ami Khomeini. Donc, on a souvent donné trop de valeur au turban de Khomeini, qui était médiatique. C'est extraordinaire, c'est une aventure de roman. Bon. Le roman, c'est important. C'est dans une révolution, les symboles, le charisme d'une personnalité est essentiel, bien évidemment. C'est le petit déclic, l'étincelle qui va faire que ça a marché ou s'effondrer. Mais on a oublié que derrière, il y avait eu ces manifestations gigantesques où tout le monde était là. Et quand vous avez un pays qui est en anarchie complète, l'armée est partie, la police n'est plus dans la rue, il y a grève générale depuis 3 mois, le gouvernement n'existe plus, le chat est parti, sans rien dire, sans rien faire. C'est l'anarchie complète. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut contrôler un pays de 50 millions d'habitants à l'époque. Qui peut faire ça ? Intellectuel de gauche ? Non. L'extrême gauche, les quelques marxistes et trotskistes qu'il y avait ? Évidemment pas.
Les religieux.
Les religieux, 200 000 hommes et femmes, hommes surtout, bien organisés, divers, de tendances différentes, implantées sur tout le territoire. C'est la seule force sociale et capable de contrôler provisoirement, c'était l'idée de Khomeini, provisoirement, en cas de crise, les religieux ont pour devoir moral, c'est la République de Platon, les gens d'excellente qualité dans une... Khomeini est un platonicien, il a étudié Platon en détail, il dit, les religieux ont pour devoir moral de guider le mouvement populaire, et donc je suis le guide de cela, je pars à Qom d'ailleurs, je ne m'installe pas à Téhéran, je vais à Qom, et je mets en place, je donne des conseils, etc. C'est la révolution dont je dirige avec beaucoup d'autorité, mais je ne suis pas le leader, et Khomeini le rappelait tout à l'heure, c'est grâce à la demande populaire, donc il y a ce rapport de force. Il faut en Iran...
Et ce rapport de force aujourd'hui, il n'a pas changé. Vous disiez dans un article que j'ai lu pour préparer cette émission que, évidemment, certes les Iraniens sont des croyants, certes ils sont des chiites, mais qu'ils sont avant tout des républicains.
Oui.
Et que progressivement, il y a eu un glissement en réalité. Expliquez-nous un petit peu ça et je vous donne la parole.
Le slogan de la République islamique, c'est indépendance contre les Américains de l'époque. Liberté, on ne serait pas contre. République, on n'est pas contre. Et islamique. Il y a 4 mots. Il faut peser les 4 mots. Aujourd'hui, après 40 ans d'expérience de l'islam politique qui a été relancé par l'Iran, et dont on dit c'est la faute à l'Iran, et Trump le dit, si les Iraniens n'avaient pas fait ça, il n'y aurait pas Daesh aujourd'hui. C'est un peu résumé. L'islam politique, c'est-à-dire que l'islam en tant que force morale et intellectuelle était capable de mobiliser le peuple. Ça a été une réalité. La force morale qui a fait que 10 millions d'Iraniens sont partis dans la rue. Mais l'expérience du gouvernement par l'islam a abouti au fait que l'Iran est aujourd'hui le pays le plus laïque, disons le plus socialisé du monde, où les religieux qui ont le pouvoir gardent le pouvoir, bien évidemment, avec tous leurs symboles, mais la société ne l'est plus. Et pour y faire bref, la République islamique d'Iran a tué l'islam politique. Mais l'islam reste une force sociale importante pour tenir un pays, c'est évident. Mais l'islam politique, disant l'islam c'est la solution, non. L'islam c'est une part de la solution. Et la démonstration iranienne, ça a coûté cher aux Iraniens, en 40 ans, ils ont démontré que l'Iran était pour l'indépendance contre Trump et les voisins, pour la liberté, les gens réclament la liberté, pour la République, on veut des élections en Iran qui soient pas truquées, et que l'islam soit là, c'est une force normale.
Ahmad Salamatian, vous abondez dans le sens de Bernard Hourcade. Oui, évidemment, le régime iranien est un régime théocratique, mais au fond, la société n'est pas aussi théocratique qu'on pourrait le penser, et peut-être plus républicaine que...
Mais moi, je dirais même qu'en 1977, la société iranienne n'était pas aussi bigot que ça. À vrai dire, les mollahs ont profité d'une vide dans la représentation de cette nouvelle société, avec l'échec du Shah, pour prendre le dessous. Mais en 40 ans, les mollahs sont les premiers perdants dans l'imaginaire populaire. Les mollahs ont troqué la couronne avec l'influence. N'oubliez pas que dans un siècle et demi passé, les mollahs étaient en Iran des faiseurs de rois. Mmh. Ils sont devenus rois. Et aujourd'hui, il exerce le pouvoir. Et il s'use. Aujourd'hui, c'est de la sorte que j'ai dit. Je donne un exemple. Il y a 40 ans, Khomeini a mis à pied, à genoux, une armée qui était comptée 5e armée du monde. Sans avoir véritablement, sans une fusil.
Mais parce qu'il avait le soutien du peuple. Il est accueilli par des millions de personnes quand il revient de France.
Aujourd'hui, l'ayatollah Khamenei, que je considère beaucoup plus... avec un kaki et avec une képi, quoi, avec un turban, ne peut pas se promener dans les rues de Téhéran et de Rome sans qu'avant, il y a à peu près une vingtaine de membres de garde, milliers de gardes de révolution qui ont pacifié la région.
Il n'aurait pas le même, donc il n'a plus aujourd'hui le même soutien populaire.
Exact. Donc ça, c'est la classe moyenne aussi iranienne, qui était le fer de lance de la révolution. Encore aujourd'hui, mais cette classe moyenne est changée. Il y a 40 ans, 5 millions de personnes sont venues accueillir Ayatollah Khomeini. J'ai dit, et je répète, Téhéran, mégapole de l'époque, était rempli des gens avec l'imaginaire de campagnards, qui cherchaient un chef de village, un chef de village, qui s'était enveloppé avec la sacralisation religieuse, c'était ça assuré. Aujourd'hui, dans les villages les plus lointains de l'Iran, c'est l'imaginaire de citadins. Permettez-moi de vous dire que tout cela, ça fait une rise de l'histoire. Je suis parfaitement d'accord qu'avec les mollahs, même la religion a commencé à se séculariser en Iran. Aujourd'hui, Khamenei et l'appareil religieux est beaucoup plus produit d'un rapport de force séculier que d'une théocratie et la légitimité religieuse transcendant.
Bernard Hourcade, vous vouliez réagir, je vais vous laisser réagir et puis ensuite on va évoquer peut-être la succession, la grande question de la succession du guide qui est évidemment sur la table. On le sait, Ali Khamenei extrêmement affaibli aujourd'hui et il va falloir trouver une manière de le remplacer et c'est quelque chose qui fait beaucoup débat, on va l'évoquer ensemble. Mais d'abord, j'ai vu que vous réagissiez au propos de Ahmad Salamatian, vous n'avez pas l'air complètement d'accord.
Le rôle du leader est important. Moi j'insiste, je fais de la géographie, j'étais sur le terrain, j'étais là pendant la révolution de 78 jusqu'en 83. J'ai vu ces grandes manifestations, j'ai accueilli Khomeini près de la gare de Téhéran à l'époque, et j'ai fait les manifestations pour voir cela dans le détail. Et donc, il faut, c'est un peu mon leitmotiv, ne pas regarder le turban, regarder ce qu'il y a sous le turban. Petit détail, quand Khomeini est mort, le guide de la République islamique est devenu le guide de la révolution. Il n'est pas devenu le guide de l'islam, le guide de la révolution, c'est-à-dire de la politique. M. Khamenei est un chef politique. On dit théocratie en Iran, c'est faux, c'est pas une théocratie. Théocratie voudrait dire que l'idée de Dieu, de l'islam, guide le système. Non, la République islamique, l'islam est très important, mais elle est dirigée par des hommes politiques qui ont des raisonnements politiques.
L'Iran n'est pas une théocratie.
N'est pas une théocratie. Mmh. Ça serait trop simple, ça serait trop naïf. Croire que Dieu envoie un email, un SMS tous les matins à M. Khamenei, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est de la politique. Et donc, raisonnant en termes politiques, au lieu de dire, c'est à cause de... Non, le débat, il n'est pas théologique, il est strictement politique.
Alors, le débat, il est politique, aussi sur la question de la succession. Je le disais, il va falloir, parce qu'il est très malade et très affaibli, Ali Khamenei.
Pas forcément.
Il n'est pas si malade que ça ?
J'en sais rien.
Enfin, il y a bien un moment où il va disparaître, Bernard Hourcade, ça va nous arriver à tous.
Donc, soyons
d'accord. Il y a plusieurs questions qui se posent. C'est un, que prévoit très concrètement la Constitution pour désigner celui qui occupera ce qui est quand même le poste le plus élevé du pays, au-dessus du président. Et finalement, pourquoi aujourd'hui cette question de la succession est aussi problématique, Ahmad Salamatian?
Tout d'abord, quand on dit théocratie, dans la succession à venir, justement, c'est le lien théocratique qui va avoir de moins en moins de l'influence. au détriment de ce pouvoir religieux qui s'est sécularisé. D'ailleurs, on l'avoue avec la succession de Moussa Khamenei. Dans la constitution iranienne, c'était prévu que c'est la source d'imitation, une expression chiite, le mollah le plus important qui a plus de fidèles, qui serait le vicaire de l'imam caché, qui a la tutelle sur tous les pouvoirs. M. Khamenei n'avait aucune de ces qualités. M. Khamenei a été désigné par un organe et en plus par l'ensemble des organes qui étaient les experts religieux, une combinaison de dernière minute. On a vu récemment, il y a un an et demi, les vidéos de la réunion qui ont désigné M. Khamenei. Khamenei lui-même, il dit qu'il faut pleurer sur le destin de cette république islamique dont le guide suprême, c'est moi, pauvre étudiant de l'école religieuse. C'est là pareil. Et M. Khamenei n'a jamais fait assister à un défilé militaire. Mais il avait le titre de commandant en chef des forces armées et son autorité a fait durer pendant 8 ans de la guerre d'Iran-Irak. Il n'y a pas de semaine en Iran aujourd'hui que M. Khamenei ne passe pas en revue les forces armées. C'est de plus en plus la casquette de commandant en chef des forces armées. Dans l'histoire de la République islamique, les mollahs, avant on disait les ayatollahs. Après on a commencé à dire les ayatollahs qui étaient docteurs. Après on a dit les ayatollahs qui étaient commandants. Maintenant on dit les commandants qui sont hujjat al-islam. Ça a changé complètement. Et dans cela, permettez-moi de vous dire, la plus grande partie des hommes enturbanés qui sont dans des sérails de pouvoir islamique, dès l'âge de 19 ans, ils ont fait toute leur carrière dans les organisations sécuritaires et non pas dans les écoles religieuses. Premier exemple, c'est M. Rihani et M. Khamenei eux-mêmes. C'est pourquoi la succession, ça se fera beaucoup plus par les organes qui sont issus de cet état autoritaire et pas nécessairement dans le cadre de la transcendance de la légitimité théocratique.
Comment est-ce que vous voyez cette succession, Bernard Rocard? Parce qu'effectivement, l'actuel guide, Ali Khamenei, il a par ailleurs occupé le poste de président.
Il était président pendant 8 ans. Oui.
Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui que Rouhani devienne le futur guide?
Oui, n'importe qui, vous, moi, n'importe qui peut être guide. Il y a une assemblée, pour rappeler aux auditeurs, une assemblée élue, l'assemblée des experts, 80 personnes qui ont été élues tous les 7 ans, genre 8 ans. Et là, et en cas de décès du guide ou d'invalidation, il va donc voter pour le nouveau candidat. Ils ont déjà sous le coup de quelques candidats potentiels, mais c'est donc une élection. Mais la possibilité...
Une désignation.
Une désignation, oui. Enfin, une élection au deuxième degré.
Une cooptation.
Mais il est très clair que les rapports de force sont là. Et ce que dit Ahmad Salamati, je suis entièrement d'accord sur le fait que la sécurité est un élément très important. Ne pas oublier la guerre Irak-Iran, qui a fait beaucoup de morts, mais surtout beaucoup d'anciens combattants. Aujourd'hui, toutes les élites iraniennes, de tout niveau que ce soit, sont des gens qui ont fait la guerre Irak-Iran d'une façon ou d'une autre. Et donc, des gens qui sont sensibles aux questions de sécurité, aux questions de défense de la patrie, etc. Donc, ces éléments-là sont là. Donc, ça n'a rien de théologique, cela. Ça n'a rien de religieux. Et le problème est qu'aujourd'hui, si Rouhani prenait le pouvoir, il serait comme un autre. Il devrait être... quand on prend la couronne du roi ou les chaussures du roi, on est le roi. Hein, et donc, il devra se comporter en guide et défendre les grands principes. Le problème est qu'entre M. Khamenei aujourd'hui, qui est un religieux révolutionnaire, qui à Machad était parmi les jeunes révolutionnaires, jeunes mollahs de 35 ans qui faisaient la révolution contre le Shah, mais qui n'avait pas le titre de grand ayatollah, et Khamenei, il y a un fossé gigantesque. Khamenei est un leader à la fois religieux, politique, c'est un leader révolutionnaire, donc exceptionnel dans l'histoire, il est un peu à part. Les autres, ils font ce qu'ils peuvent en se retroussant les manches. Mais ce qui est important, c'est que Khamenei, plus que Rouhani aujourd'hui, Khamenei a été proche de Khamenei, il était dans la révolution, il a fait la révolution à un très très haut niveau. Il ne peut pas succéder à Khamenei. Le successeur de Khamenei sera un mollah de la troisième génération qui n'aura pas connu la révolution. Quelle légitimité il aura pour dire « faites ceci ou faites cela ». Et c'est là qu'il aura en face de lui les anciens combattants qui ont défendu la patrie pendant, avec tous les guillemets qu'il faut, pendant des années. La nouvelle bourgeoisie moyenne des gens, des fils de ces révolutionnaires qui ont 70 ans aujourd'hui, qui ont 40 ans aujourd'hui, qui sont pas contre l'islam mais qui veulent bouger. L'Iran d'aujourd'hui est radicalement différent. Donc le futur guide de la République islamique n'est absolument pas comparable à ce qu'a été Khamenei il y a 40 ans.
Ahmad Salamati.
Si je veux dire par rapport des blocs de pouvoir, je dirais que de plus en plus, le turban, l'école religieuse et le clerc a perdu son influence en faveur de militaires et l'homme de garnison. Et j'ai l'impression que le face-à-face le plus important au cas de la disparition de M. Khamenei, va être justement, est-ce que les militaires se trouvent dans une situation pour se présenter directement sans avoir besoin d'une certaine forme de camouflage.
Présenter, vous voulez dire un candidat à la succession.
Exactement. Ouais. Et où c'est encore dans cette théocratie que vous dites, et à mon avis, cette théocratie a une autre particularité. Et cette théocratie, pendant 40 ans, a vécu avec des élections sans interruption. Malgré toutes les absences de liberté de candidature, il y a une concurrence farouche dans les élections iraniennes. Cette concurrence...
38 élections.
Dans cette élection.
38
cette...
élections ?
Depuis la Révolution, oui.
Depuis la Révolution.
Quasiment une élection par an.
Tous les deux ans, il y a maintenant une élection. Mmh. Il y a quatre genres d'élections différentes.
Donc une vraie démocratie.
Une vraie république.
Est-ce que vous en... Voilà, parfaitement. C'est-à-dire un pluralisme de pouvoir dominant et un pluralisme de la société contestataire. Face à face, il y a deux camps. Et dans ce camp, Khomeini, c'était le turban qui assurait le commandement de camp. Pouvoir, Khamenei, c'est le commandant en chef des forces armées qui avait encore une influence dans les... Et demain, Monsieur Rouhani, je ne sais pas, Monsieur Rouhani a opté pour le turban dans les mois qui ont précédé la révolution iranienne. Sinon, avant, il n'avait pas de turban. Alors demain, je ne sais pas. Donc le fond, mais il y a une autre chose. Est-ce que c'est les organes de sécurité militarisés ou non? Et permettez-moi de vous dire, la tension internationale depuis 40 ans a renforcé les militaires. Les gardiens de la révolution sont fruits de la guerre. Ils iront l'Irak. Et aujourd'hui, la main tendue de M. Obama déstabilisait le pouvoir iranien plus que le poing levé de président Trump.
Et peut-être que quelque chose aussi a déstabilisé le pouvoir, c'est l'arrivée de Trump et le fait que précisément il ait déchiré l'accord sur le nucléaire. On va l'évoquer tout de suite, Bernard Ourcade, mais d'abord, réaction justement du président Rouhani suite à ce retrait américain sur l'accord sur le nucléaire.
Ce soir, les États-Unis ont annoncé officiellement qu'ils ne respectent pas les traités internationaux. Avant de rejeter l'accord nucléaire iranien, M. Trump avait déjà fait sortir le pays des accords de Paris, qui sont pourtant d'une grande importance pour l'environnement mondial. J'ai donné pour consigne au ministère des Affaires étrangères de négocier avec les pays européens ainsi qu'avec la Russie et la Chine. Si, au bout de cette courte période de négociation, nous concluons que nous pouvons continuer à bénéficier de l'accord avec ces pays, celui-ci restera en vigueur malgré la volonté des États-Unis et du régime sioniste.
Bernard Ourcade, quand en 2017, Rouhani est reconduit pour 4 ans comme président dès le premier tour, avec un assez bon score, 57% des voix, cette victoire, elle est interprétée comme la consécration de sa politique d'ouverture à l'étranger. À l'époque, il parvient à apaiser les tensions, les relations avec l'extérieur, et notamment évidemment avec les États-Unis grâce à cet accord. Il y a donc la levier partielle des sanctions qui vient, et puis arrive Trump, déchire l'accord, le retour des sanctions. Dans quelle mesure est-ce que ce virage fragilise précisément le président Rouhani, et peut-être, disons, plus globalement, le camp modéré, on va le dire comme ça, Bernard Ourcade?
Oui, tout à fait. La signature de l'accord sur le nucléaire le 14 juillet 2015 marque la naissance, je dirais, de la République islamique. Elle a été conçue il y a 40 ans. La gestation a duré 40 ans. Elle est reconnue par la communauté internationale, par les États-Unis notamment, le 14 juillet 2015, où ça y est, pour la première fois, les États-Unis reconnaissent la République islamique d'Iran et font un accord. Le fait que quelques jours après, d'ailleurs, le Congrès américain, même pas Trump, c'est l'époque d'Obama, Trump ne fait qu'ajouter, le Congrès américain refuse cet accord, montre que le contentieux est encore là. Mais c'est pour Rouhani et pour Zarif, pour les ceux qui ont essayé de donner une réponse positive à l'ouverture internationale de l'Iran à laquelle aspire toute la population iranienne et notamment les pauvres gens qui ont fait la révolution islamique populaire, qui maintenant sont éduqués, veulent autre chose. Et donc, ils ne veulent pas la Californie chez eux, mais ils veulent profiter de la mondialisation. Cette ouverture-là, qui aurait permis effectivement un changement de société, d'économie, mais aussi de politique à terme, est cassée. Et Rouhani se retrouve en ayant embarqué dans une direction, en ayant coupé les ponts avec derrière lui, et il se retrouve embarqué dans une impasse. Et donc l'ouverture internationale qui était la clé, parce que désormais, le job, il y a plus d'ingénieurs en France, en Iran qu'en France. Les ingénieurs auront du travail. Ils sont au chômage brutalement. Déception gigantesque. Et donc, l'international ne marche plus. L'islam ne marche plus. On l'a vu aux émeutes de l'hiver 1918, les gens disaient pas, l'islam c'est la solution. On n'a pas fait la révolution en 1978 pour l'islam, contrairement à ce qui se passe en Égypte ou ailleurs, ou à Daesh. Il ne reste plus que le nationalisme. Donc aujourd'hui, résistons, Rouhani le disait, résistons à la situation. Les Iraniens résistent depuis toujours, mais c'est pas une solution. Les jeunes qui ont 40 ans aujourd'hui, il est ingénieur, il avait une place chez PSA, chez Peugeot, d'ingénieur, il ne l'aura pas. Résister à quoi ? Manger du pain sec et du yaourt, bon, c'est pas une solution, c'est pas une réponse. Et donc aujourd'hui, il y a une grande question qui est sur le fond, non pas qui va succéder à Khamenei, ça sont des éléments de politique politicienne, mais sur le fond, quelle force est capable politiquement de contrôler le pays ? L'international a été détruit.
Mais en tout cas, l'offensive américaine renforce le nationalisme iranien. Ah, c'est ça que vous nous dites.
Tout à fait.
Ahmad Salamatian.
Oui, voyez-vous, le fond du problème, c'est que la société iranienne, dans sa marche pour la démocratie, et ça depuis plus d'un siècle même, a toujours compté sur l'ouverture vers le monde extérieur. La révolution islamique, la révolution de Khomeini avait des formes de fermeture, mais au fond, le symbolique même d'un ayatollah qui de Najaf vient à Paris faire sa prêche, c'était une certaine forme de sortir de carcan traditionnel. Et aujourd'hui, autant la société civile iranienne bénéficie dans son épanouissement de l'ouverture vers le monde étranger, autant les partis les plus durs de pouvoir iranien se sentent déstabilisés par cette ouverture.
Et mais alors justement, donc le retrait sur le nucléaire iranien devrait renforcer ce camp précisément. Ils ont été déstabilisés, est-ce qu'ils ont été restabilisés ? Est-ce que les conservateurs nationalistes tirent finalement un bénéfice de cette offensive trumpienne ?
Évidemment, évidemment. Voyez-vous, en Iran aujourd'hui, toute l'élément de la sécurité pour la population iranienne s'est rangé du côté de pouvoir. C'est pouvoir qui offre la marchandise de sécurité mieux que le monde environnant. Il y a un triangle qui s'est constitué dans le Proche-Orient. Le triangle Trump, Netanyahou et Mohammed bin Salman fait peur à la classe moyenne iranienne. La télévision iranienne, maintenant, il publie en cercle tout le temps les images de la Syrie et de l'Irak. Je dis pas que l'Iran va devenir la Syrie, c'est pas les mêmes données. L'Iran est une société post-islamiste au point de vue de l'islam politique. La Syrie rentrait dans leur rêve islamisme pour Iran est devenu un cauchemar. Mais cela n'empêche que dans un pays où le peuple, d'une certaine manière, je dis, c'est un peuple avec un imaginaire de unique. L'Iran est dans une mer de non-personophones, un pouvoir. L'Iran étant d'une mer de sunnites, un chiite, c'est l'esprit insulaire. Dans cet esprit insulaire, toutes les menaces, ça crée une sorte d'effet de ce qu'on appelle Masada. Je suis désolé. Quoi ? La population, il se sent menacé dans son existence. Il cherche la sécurité. La sécurité, c'est le premier élément qui peut renforcer la cohésion.
Bernard Ourcade,
vous êtes d'accord avec le fait que cet esprit de résistance qui a été la guerre Irak-Iran, etc., est très fort dans l'Iran. Les Iraniens, Hafez à Shiraz, résistaient aux Mongols par la poésie, etc. Cette notion d'insularité, les Iraniens sont... Bon, c'est un facteur important. Et il y a un consensus là-dessus. Des conservateurs, et tout le monde dit, Trump nous agresse, Ben Salman nous agresse, Israël... Bon, ça fait un consensus. Mais, élément très important, depuis 40 ans, la société iranienne a changé. Et l'idée de résistance, qui était très fort à la révolution islamique, pendant la guerre Irak-Iran, n'a plus la force qu'elle avait jadis. Parce que les Iraniens d'aujourd'hui veulent l'ouverture internationale, l'ouverture au monde simplement, tout en restant iraniens bien évidemment, hyper nationalistes. Et donc comment trouver une solution en résistant d'un côté, parce qu'il faut résister à l'agression extérieure, tout en ouvrant la porte? Et c'est là que l'Europe peut jouer un jeu, et il n'y a pas de solution. Et à l'intérieur, qui peut faire cela? La résistance, les mollahs sont excellents, mais c'est fini, ils n'ont plus de crédit. L'international, c'est trop faible, Trump nous a trahis, les Européens ne sont pas capables de nous soutenir. Il reste la résistance. Donc qui est résistant? Les militaires. Et c'est une question qui se pose. Rouhani doit être réélu dans 2 ans, élection fin de deuxième mandat. Qui peut être candidat? C'est pas le guide. Le guide sera toujours un guide, peu importe qui. Mais le président, aujourd'hui, parce que l'Iran est devenu une république, c'est ça la clé du sujet. Qui pourra succéder à Rouhani? Et c'est là que certains disent, pourquoi pas un militaire? Certains disent un nouveau Reza Shah.
Donc, en gros, si je vous entends bien, ce qu'est en train la stratégie américaine qui consiste à déstabiliser l'Iran pour faire tomber le régime, parce qu'il s'agit de ça, pourrait conduire à une forme de militarisation du régime iranien. C'est en tout cas ce que vous analysez, vous. Ahmad Salamatian, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Puis ensuite, on va retrouver une nouvelle invitée.
Moi, j'ai dit toute fermeture à l'extérieur, ça renforce les militaires, les gardiens de la révolution. Oui. Ça renforce même une certaine alliance avec les puissances du Nord et la Russie. Je suis désolé, c'est des données géopolitiques aujourd'hui que les grandes puissances autoritaires telles que la Chine et la Russie peuvent mieux s'entendre avec les gardiens de la révolution et non pas les puissances démocratiques. Mmh. Ça, c'est dommage.
Tout à fait. Et ça va se faire comment? Est-ce que ça va se faire par une nouvelle révolution populaire ou est-ce que ça va être une révolution de palais ou même, voilà, un changement par les urnes, tout simplement. On attendra l'élection et c'est...
Le général Untel, ancien combattant, héros de la guerre, est élu, montrant qu'il va résister, mais également s'ouvrir. Et le problème, est-ce qu'il sera capable de répondre à l'ouverture qu'exige la société iranienne?
On est avec vous, Bernard Ourcade, et vous, Ahmad Salamatian, dans cette série que nous consacrons cette semaine à l'Iran. 40 ans de la République islamique, l'Iran sous tension. Aujourd'hui, une théocratie qui plie mais ne rompt pas, même si c'est une théocratie, on l'a vu, un peu particulière, vous nous l'avez dit déjà.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Il faut se souvenir que pendant plus de 40 ans, les femmes, on va parler des femmes iraniennes, n'avaient pas le droit de porter le voile. Et l'une des promesses de l'ayatollah Khomeini était précisément de rendre cette liberté aux femmes. Sauf que désormais, elles sont contraintes de le porter et nombreuses sont celles qui se mobilisent pour le dénoncer. Février 2018, la vidéo de cette jeune femme, debout, cheveux au vent, tenant son foulard blanc à la main sur une armoire électrique d'une avenue de Téhéran, a fait le tour du monde et largement au-delà. Mariam Shariat Madari avait refusé de descendre alors qu'un policier le lui ordonnait. Il avait fini par la faire chuter au sol, la blessant au genou, puis l'emmenant ensuite à la prison des vins. On va retrouver une nouvelle invitée, Shala Shafik. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes écrivaine, sociologue. Mariam Shariat Madari, c'était évidemment qu'une femme parmi tant d'autres qui depuis des mois protestaient pacifiquement contre l'obligation de porter le voile, mais en réalité leurs revendications, elles vont bien au-delà de cette question du voile qui n'est que le symbole d'une persécution plus large. Et d'ailleurs, ces femmes, elles sont extrêmement actives dans le combat mené par l'ensemble de la société. Elles sont en première ligne de cette résistance dont on parlait à l'instant avec Bernard Ourcade et Ahmad Salamatian. Shala Shafik.
Pour revenir à cette histoire qui est longue, puisque les actes de ces jeunes femmes, c'est la suite d'une histoire mouvementée. Donc au début de la révolution, c'est-à-dire après l'arrivée des islamistes au pouvoir, à la veille du 8 mars, Ayatollah Khomeini a appelé les femmes qui travaillaient dans les ministères, de toute façon le secteur entier du travail, la santé, l'éducation nationale et le reste, à porter le voile dans les lieux de travail. Le lendemain, il y a eu une manifestation massive des femmes contre cette obligation. Donc à l'époque, ça a été réprimé, les femmes aussi ont reculé puisque l'ensemble des groupes politiques leur conseillaient de rentrer chez elles. Alors après, il y a eu un phénomène de mauvais voile comme forme de résistance. Les femmes iraniennes qui n'étaient pas pour cette mesure ont commencé à mettre les voiles incorrects. Ça a fait un problème politique pour le régime iranien. Et après, ce mauvais voile est arrivé, on arrive aujourd'hui, 40 ans après, à une manifestation d'enlever le voile dans les lieux publics. Mmh.
Voilà. Chala Shafik, si on revient au début, vous avez quitté l'Iran en 1982 pour gagner la France et vous avez vécu activement cette révolution de 79. Vous expliquez dans l'introduction de votre livre, en l'occurrence Islam politique, sexe et genre, qu'à l'époque, bien qu'ayant reçu une éducation laïque, vous étiez convaincu du bien fondé des discours de Khomeini et du rôle positif de la religion dans les mobilisations contre la dictature soutenues par les Occidentaux. Vous expliquez que, comme des dizaines de milliers de femmes, vous étiez persuadé que porter le foulard lors des manifestations allait vous unir aux autres femmes dans la lutte contre le Shah. Comment expliquer cette conviction alors même que vous aviez, vous, reçu, vous le dites, une éducation laïque et que vous étiez non-croyante?
Si vous voulez, oui, bien sûr, j'étais étudiante de gauche radicale, mais si vous voulez, ça aussi, c'est ce que j'explique dans ce livre-là, c'est aussi tout un processus après le coup d'État de 1953 le coup d'État qui a été soutenu par le CIA américain et le service secret britannique, mais aussi par l'État iranien contre le gouvernement de Dr. Mossadegh. Il y a eu une dépression généralisée chez les mouvements politiques et il y a eu dans cette ambiance une montée des mouvements de l'islam politique, que j'explique. Après, au sein de ce mouvement, puisque l'arrivée de Khomeini sur la scène iranienne n'est pas deux jours au lendemain. Et en fait, Khomeini, dans son exil en Irak, avait formalisé aussi la théorie de Velayat Faqih, l'autorité de guide suprême, qui a donné après, qui a inspiré la structure du régime iranien actuel. Donc tout ça, c'est quand même des concepts qui ont été évolués, un contexte historique et social qui a aidé. L'islamisme, comme une utopie politique, a su aussi séduire une partie de gauche, une partie importante, et une partie des libéraux. Ce qui a fait que Ayatollah Khomeini n'a eu pas de difficulté extrême d'imposer son autorité au sein de l'opposition, qui était quand même très diverse.
Chala Shafik, encore une question et puis je ferai réagir nos invités ici, mais en 40 ans, on le voit, les femmes sont parvenues à pénétrer quand même le paysage politique iranien. Alors certes, elles n'ont pas la même place que les hommes, évidemment, mais elles s'accroissent. Par exemple, quand on regarde les dernières élections législatives de 2016, 17 femmes avaient été élues. Le grand assaut des femmes, voilà ce qu'avait titré le quotidien réformateur Johan Sanat. C'était un record, c'était le double par rapport à la législature précédente. Que vous inspire cette montée en puissance des femmes en politique? Jusqu'où est-ce qu'elle peut l'aller? Et le scénario par lequel, au fond, les femmes transformeraient de l'intérieur le système politique iranien, vous paraît-il possible?
Là, si vous voulez, ici, moi je pense qu'il y a toujours une instrumentalisation un peu de cette présence des femmes au sein de la politique, alors que les femmes sont présentes dans tous les lieux sociaux. Mais si vous voulez, le scénario est très clair. Et moi je pense qu'on cherche les concepts un peu, on plaque les concepts occidentaux sur la structure du régime iranien et ça donne quand même une confusion. Donc c'est, bien sûr, c'est pas une théocratie dans le sens classique du terme, ce n'est pas non plus un autoritarisme quelconque, c'est une instrumentalisation de l'islam au service d'un pouvoir à tendance totalitaire. Donc effectivement, les élections dont on parle en Iran, ce sont des élections complètement filtrées. Il s'agit des élections qui sont, et bien sûr, le peuple iranien, à partir d'un certain moment, participe dans ces révolutions avec l'espoir de l'ouverture, mais le système est complètement verrouillé parce que c'est à la fin, à la tête de ce système, c'est le guide suprême et tous les instances qui sont liées qui décident. Si vous voulez, et la présence des femmes, c'est, bien sûr, ça peut diminuer, ça peut grandir au sein de Parlement. Selon les tendances dures ou les plus réformatrices, mais en fait, même les bilans qu'elles, les femmes réformatrices présentent, démontrent que la marge de leur mouvement et la marge de leur action est complètement aussi diminuée par cette autorité des dures sur la structure, sur la loi constitutionnelle, tout est conditionné à la charia.
Sans compter qu'évidemment, toutes ne sont pas pour la libération du droit des femmes. Si on prend par exemple Fatemeh Alia, dont vous parlez dans l'introduction de votre dernier livre, Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, eh bien elle, c'est une élue conservatrice, ancienne ministre de l'éducation de Mahmoud Ahmadinejad, et c'est l'archétype de la femme politique qui fait tout pour protéger le régime et le système politique tel qu'il existe. D'ailleurs, vous racontez dans votre ouvrage comment Fatemeh Alia s'était insurgée contre le fait qu'il existe à Téhéran une rue Simone de Beauvoir, alors qu'en fait c'était une rue Simon Bolivar. Voilà d'où vient la confusion. Elle avait été la risée des réseaux sociaux. Vous racontez ça extrêmement drôle dans votre dernier livre, Chala Shafik. Réaction peut-être à Ahmad Salamatian et Bernard Ourcade sur cette question de la place des femmes.
La place des femmes a changé avant tout en Iran sur tous les aspects. D'abord dans la famille. La place des femmes en Iran dans les familles, la structure de la famille, il y a 40 ans maintenant, c'est incomparable. Je ne parle pas de carcan législatif, non. Je donne un seul exemple. En 1977, l'âge de mariage des jeunes filles autorisé par la loi iranienne était 13 ans. En 2019, l'âge de mariage de charia, qui en principe devrait régner sur la société iranienne, je m'excuse, c'est de pédophilie, c'est 9 ans. Mais l'âge statistique de mariage des jeunes filles en Iran pendant la révolution, c'était 13 ans. Aujourd'hui, c'est 29 ans. La place, les femmes sont changé le rapport de force dans la famille, changé le rapport de force dans l'université, changé le rapport de force dans l'art. Et la politique, ils ont des difficultés. Mais je suis sûr que le problème le plus important des mollahs et le problème le plus important pour arriver à la démocratie en Iran, c'est qu'on crée un équilibre entre la place réelle de la femme de la société iranienne et sa représentation politique.
Bernard Ourcade, sur cette question de la femme qui a toujours été au cœur de la propagande révolutionnaire iranienne en réalité.
Tout à fait. Et ce qu'il faut voir, c'est que l'évolution des femmes en Iran, de la société iranienne, de un peu tout, c'est aussi le fait d'une évolution d'une société normale provoquée par le Shah en 1960 qui a lancé l'éducation, l'ouverture des femmes, l'ouverture internationale. Ce sont les enfants du Shah qui ont fait la révolution. Mais ce qui est important aujourd'hui, sans dire qu'il y a tort ou qu'il y a raison, voyons les faits, c'est l'expérience de ces 40 ans, expérience des femmes qui effectivement arrivent et on se rend compte aujourd'hui, quelle que soit son opinion politique en Iran, qu'il faut que les femmes trouvent la place normale dans la société. Et c'est un rapport de force nouveau pour le futur gouvernement iranien. Deuxièmement, les élections, on en parlait tout à l'heure. C'est peut-être du théâtre, du cinéma, mais les Iraniens disent on ne veut plus que ce soit du cinéma. Ils se sont pris au jeu. Ils ont l'expérience d'élection. L'expérience doit marcher. Et troisièmement, sur l'islam, qui était une solution, et Khomeini a été le déclencheur de cela, exceptionnel pour faire renverser un régime, mais à l'expérience, ce n'est pas tout. Donc les Iraniens ont aujourd'hui l'expérience de 40 ans de république islamique, et on serait bien venu de voir cette expérience quand on regarde ce qui se passe en Syrie, en Égypte ou en Algérie.
هم گل آفتاب گردون میترسه دلم از بارون یارب تو شب مهتابی لیلا رو نگیر از مجنون
Merci infiniment à tous nos invités. D'abord, Chala Shafik est avec nous à l'instant par téléphone. Je rappellerai pour les auditeurs le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, donc qui vient de paraître, mais aussi Islam politique, sexe et genre à la lumière de l'expérience iranienne. Un grand merci à vous, Ahmad Salamatian, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai Iran, la révolte verte. Bernard Ourcade, un grand merci également d'avoir été avec nous, d'avoir ouvert cette série qui va se prolonger jusqu'à jeudi sur l'Iran à l'occasion de ses 40 ans. Géopolitique de l'Iran, les défis d'une renaissance, c'était la deuxième édition. Et puis, à lire depuis ce matin sur Orient 21, un article justement autour des 40 ans. Le titre, rappelez-moi de l'article. Ce fut vraiment une révolution. C'est
oui,
ça.
C'est ça.
Eh ben voilà, ce fut vraiment une révolution. On poursuivra donc notre série jusqu'à jeudi, donc rendez-vous demain à 11h pour l'heure. 11h53, minutes l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous disiez la semaine dernière que le but déclaré des partis relevant de la droite populiste et souverainiste est d'obtenir le tiers des sièges au Parlement européen. Mais les forces de gauche, dans quel état se présentent-elles à la veille d'une échéance décisive pour l'Union européenne ?
Tout le monde s'accordera sur le constat résumé en quelques phrases par l'économiste Danny Roderick dans un papier récent de Project Syndicate, je le cite. Les principaux bénéficiaires politiques des fractures sociales et économiques engendrées par la mondialisation et le changement technologique sont jusqu'à présent les populistes de droite. Des acteurs politiques tels que Donald Trump aux États-Unis, Viktor Orban en Hongrie ou Jair Bolsonaro au Brésil ont accédé au pouvoir en capitalisant sur une colère croissante à l'encontre des politiques bien établies, ainsi qu'en exploitant un sentiment nationaliste latent. Les forces de gauche et les mouvements progressistes ont quant à eux pour l'essentiel disparu du combat. Fin de citation. Et c'est ce que démontrent partout en Europe les sondages. La gauche a rarement connu une crise aussi grave. Un sondage de l'Istituto Cataneo donne moins de 20% à l'ensemble de la gauche européenne aux prochaines élections de mai. Souvenons-nous des commentaires si fréquents au moment de la crise financière de 2008, toutes sortes de prophètes bien relayés par les médias nous annonçaient la chute du capitalisme et la victoire des forces de la gauche radicale. Le capitalisme devenu financier, claironnait-il, mourait enfin de ses contradictions internes et de son absence de régulation. Il allait laisser la place au socialisme attendu depuis un siècle et demi. Qui aurait imaginé alors que les grands vainqueurs de la crise seraient les mouvements relevant de la droite populiste?
Alors prenons un exemple, Brice. Où en est le SPD, qui est quand même l'un des plus anciens partis de gauche en Europe?
Oui, il a été fondé, vous le rappeliez, il y a 155 ans, et c'était en apparence l'un des plus solides. Or, le SPD lui-même se débat dans une crise qui pourrait lui être fatale, selon Der Spiegel. Cette année, lit-on dans ce grand hebdomadaire de gauche, ça passe ou ça casse pour le SPD. Non seulement les élections européennes s'avèrent périlleuses pour les sociaux-démocrates allemands, mais leur parti devra affronter cette année une série d'élections locales redoutables. Les électeurs de la cité-État de Brême, dirigés par le SPD depuis 74 ans, pourraient lui retirer leur confiance. Ensuite, il y aura les élections dans trois Länder de l'Est, Brandebourg, Saxe et Thuringe, qui ne s'annoncent pas sous les meilleurs auspices non plus. Avant la fin de cette année, le congrès du parti devra tirer les conclusions de ses performances électorales pour sa stratégie. Rester au gouvernement en tant que junior partner de la CDU ou tenter de prendre la tête d'une opposition aujourd'hui dominée au Bundestag par les populistes xénophobes de l'AfD. Mais selon le politologue Albrecht von Lucke, auteur d'un essai très commenté qui s'intitule « Die Schwarze Republik und das Versagen der Deutschen Linken », ça veut dire la République noire, autrement dit la CDU, et l'échec de la gauche allemande, eh bien ces deux options sont également mauvaises. Car si le SPD reste au gouvernement, il soldera le peu de crédit qui lui reste en tant que promoteur de l'idée socialiste. Mais s'il le quitte, il risque de démontrer qu'il ne sert décidément plus à rien. Le SPD, selon von Lucke, incarnait aux yeux des électeurs allemands deux valeurs principales, la justice et la cohésion. Mais primo, l'ancien parti des gens, comme on disait, est devenu un parti de l'élite éduquée. 82% des députés du SPD au Bundestag ont fait des études supérieures. Ils parlent un langage que les gens simples ne comprennent plus. Secundo, le SPD est profondément divisé. Écartelé entre exigence des ouvriers d'industrie, dont le poids électoral décline très vite, ils sont moins de 20% de l'électorat contre 37% il y a 20 ans, et le précariat, ces jeunes diplômés qu'on voit travailler dans les cafés et qui vont d'un stage à un contrat temporaire sans pouvoir même payer un loyer régulier. Il est tiraillé également entre ceux qui veulent protéger les industries, comme Sigmar Gabriel, et ceux qui privilégient plutôt la qualité de l'air, comme Matthias Mirsch, le député de Hanovre. Pris en étau également entre sa vocation internationaliste et la tendance qui en son sein réclame qu'on n'accueille plus les réfugiés en masse comme en 2015. Alors tenter de conquérir en même temps l'électorat jeune et urbain des Verts et celui de l'AfD, c'est mission impossible. Mais la direction du SPD est-elle capable d'un choix stratégique quelconque? Sa nouvelle présidente, Andrea Manales, longtemps figure de l'aile gauche du parti, est l'objet de bien des critiques. Aucun sujet de fond n'a encore été débattu, accuse encore Der Spiegel. C'est aussi que Manales a intérêt au maintien du statu quo et tient au rituel de la social-démocratie allemande qui donne l'illusion que le parti fonctionne comme avant. À l'époque de Willy Brandt, le SPD était capable de faire converger des forces disparates. Longtemps, ce parti eut la réputation de savoir prendre soin des choses, de réparer ce qui n'allait pas en Allemagne. Aujourd'hui, conclut Der Spiegel, il risque de plonger dans l'insignifiance en tant que parti du statu quo.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.